Tu ne feras plus jamais rien à personne.
Nous venons d'apprendre qu'une fusillade a éclaté à l'hôpital Sahlgrenska de Göteborg aux alentours de 13h15.
Il y a de fortes chances pour que Blomqvist soit en possession du rapport de 91.
Et qui êtes-vous?
Oh, voilà!
Et qu'est-ce que vous faites là?
Il nous demande de mener une opération contre la rédaction d'un journal. Tu imagines les conséquences si ça foire?
Vous pensez qu'une menace pèse sur ma cliente?
Cher Frédéric,
je ne sais pas.
Est-ce que tu serais prêt à reprendre du service? Si tu n'acceptes pas, c'est la fin de la section.
Fuck you, Sashenko.
Millennium 3. La reine dans le palais des courants d'air de Stieg Larsson. Traduction, Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation, Sophie Bocquillon. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Quatrième épisode.
Salut Malou.
Bonjour Mickaël.
Quelqu'un est entré chez moi par effraction et a volé le rapport de Björk sur Sadachenko.
T'es sûr?
Certain. Je l'avais laissé sur la table de la cuisine et il a disparu. Du travail de pro. Mais c'est pas tout. Annika vient de m'appeler de Göteborg. Un type l'a suivi à la sortie d'un restaurant et lui a volé sa sacoche.
Merde. Elle est pas blessée au moins?
Non, heureusement. Malou. Je pense que tous nos téléphones privés, portables et professionnels sont sur écoute. Continue de bosser comme d'habitude. Utilise ton portable, mais ne dis rien d'important. On mettra Henri au courant demain.
D'accord. C'est grave pour les dossiers volés?
Coup de bol. Il me reste la copie que je destinais à Armansky. Je n'avais pas encore eu le temps de la lui donner. Quand ma sœur m'a appelé, je lui ai dit que nous n'avions plus aucun exemplaire, que nous n'avions plus l'ombre d'une preuve contre Teleborian et Björk, et que c'était une catastrophe. Comme ça, si nous sommes sur écoute, ils penseront qu'ils ont atteint leur objectif.
Ok. C'est quoi ce sac à dos?
Des affaires pour la nuit. Je vais dormir ici à la rédaction.
Quoi?
S'ils ont tué Sadachenko, volé les rapports et mis mon appartement sous surveillance, ils vont sans doute s'occuper de Millennium. La journée, il y a toujours du monde. Pas la nuit. Sauf à partir de maintenant.
Ouais. Erika.
Mon Rander.
Bah, je croyais que tu commençais que lundi.
Eh ben, je supportais plus de rester chez moi.
Ah, bah alors bienvenue au Svenska Morgonposten. Bon, écoute, désolé de commencer par là, mais il faut que je t'explique deux ou trois petites choses, quitte à passer pour un cynique. Tu vas vite comprendre qu'à ce poste, tu te feras des ennemis. Tu vas devoir affronter des petits chefs qui vont tester tes limites, essayer de faire passer en force leur projet. Avec une idée fixe, prendre le pouvoir. À toi d'être ferme.
Ça s'annonce bien.
Ouais, tu vas devoir notamment te farcir Billinger et Carlson.
Ah oui, les rédacteurs chefs de nuit.
Ouais. Et toi aussi Lucas Holm, chef du département des actus, que tu verras tous les jours.
Et des gens avec qui ça se passera bien, il y en a?
Bah oui, nous avons quelques très bons journalistes.
Et du côté de la direction?
Magnus Bergsjö qui t'a recruté, le président du conseil d'administration. Beaucoup de charme, plutôt vieux jeu. Il n'est pas censé faire le journal, mais il décide de tout avec les autres membres du conseil.
Et financièrement?
Le tirage est en baisse. On a perdu 150 000 lecteurs. On va bientôt tourner à perte. Mais on fait toujours partie des grands journaux. Reste à savoir pour combien de temps.
Pourquoi m'avoir choisi? Parce que je suis une femme?
Parce que tu as vaincu l'empire de Wennerström et que tu es la reine du journalisme d'investigation. Si toi, tu n'arrives pas à renouveler le journal, personne n'y arrivera.
Salut.
Salut Henri.
T'as fini par te réveiller?
Ce canapé est toujours aussi inconfortable. Il y a du nouveau?
Rien de spécial. Toute l'actualité tourne autour du 1er mai.
Je vais rester ici ce matin. Prends ta journée et reviens ce soir vers 9h. Tu passes bien la nuit ici?
Bah, c'est mon tour de garde, non?
Bah ouais. En tout cas, notre stratagème semble les dissuader. Ça, plus les portables d'occasion que je nous ai trouvés, on devrait pouvoir résister.
Tu crois vraiment qu'on est sur écoute?
Ça fait 4 jours que je suis suivi par une Volvo. Et tu sais ce qui m'a alerté? La plaque d'immatriculation commence par les lettres KAB, comme Karl Axel Bodine.
T'as vu qui était au volant?
Ouais. Un jeune blond et à côté un homme plus âgé avec des lunettes de soleil. Christer Malm les a pris en photo pendant qu'il me filait dans la rue. La Volvo appartient à un certain Goran Martensson, 40 ans. Consultant en entreprise, un ancien flic qui du jour au lendemain a disparu des services de police. Conclusion, c'est faux.
Hallucinant.
J'ai parlé à Armansky et Palmgren. Armansky veut mettre dans le coup un de ses contacts à la CEPO.
Espérons que ce sera pas dangereux. Bon, j'y vais. Assois.
Et allô ?
Allô ?
Oui, salut Daniel. C'est Mikael Blomqvist. J'ai un travail de recherche à te confier.
Je t'écoute.
Je voudrais que tu ailles faire un reportage à l'hôpital Sahlgrenska de Göteborg. Lisbeth Salander. Trouve-moi dans quelle chambre ils l'ont installé, si les chambres voisines sont occupées, quelles sont les habitudes du service. Enfin, tout ce que tu peux trouver, quoi.
Ça marche.
Alors, Yerker ?
Tout porte à croire que Björk s'est suicidé par pendaison.
On ne l'a pas aidé ?
Apparemment, non. Aucune empreinte à part les siennes et celles du propriétaire de la maison.
Il s'est pendu comment ?
Avec une corde enlevée au mât qui se trouve derrière la maison. La seule chose un peu étrange, c'est le nœud fait à la corde, une simple boucle. Björk faisait de la voile, il savait donc faire de vrais nœuds. Mais bon, est-ce qu'un homme qui est sur le point de se suicider se donne la peine de penser aux nœuds ?
Et la recherche de toxiques ?
Björk avait des traces d'antalgiques puissants dans le sang. Il en prenait à cause de ses douleurs de dos. Il avait également des traces d'alcool, mais très faibles.
Et le médecin légiste écrit qu'il y a des égratignures.
Une éraflure de 3 cm sur la face externe du genou gauche. Il a peut-être heurté le bord de la chaise.
Bon. Donc rien qui nous permette de penser qu'on a aidé Björk à mourir. Mais j'ai quand même du mal à croire que c'est une coïncidence s'il est mort le même jour que Salatchenko.
T'en penses quoi ?
J'en sais rien. C'est vrai, Björk était sous pression. Il savait que l'affaire Salatchenko allait surgir au grand jour et qu'il risquait de se faire coincer pour avoir acheté les services de prostituées. Et puis, il était malade et il souffrait le martyr. Mais j'aurais aimé qu'il laisse une lettre. Je n'aime pas ça, mais on n'a pas le choix. On va classer le suicide de Björk.
Allô ?
Bonjour Erika. Alors, ce nouveau poste, ça se passe bien ?
Tu parles ? Morander est mort ?
Non.
Ce matin, sous mes yeux, en plein comité de rédaction. Je suis en train d'écrire sa nécrologie.
Tu plaisantes ?
Même pas. Il s'est levé, il a fait 3 pas, et il s'est écroulé d'un coup. Il avait de gros problèmes cardiaques. C'est pour ça qu'il voulait arrêter.
Eh ben, c'est encore plus agité qu'à Millennium.
Ça m'arrange pas, hein. Il devait me former pendant 2 mois. On a pu travailler ensemble que 3 jours.
Je te connais, tu t'en sortiras très bien, même sans lui.
Ouais. J'ai demandé à Fredrickson, le secrétaire de rédaction, de devenir mon conseiller. Morander lui faisait entièrement confiance.
Et sinon, tu penses que ton nouveau job va te plaire ?
J'en sais rien. Borgje, le président du conseil d'administration, est venu me voir tout à l'heure. Il veut que je donne plus d'autonomie à Lucas Holm, le responsable des actus. Un petit chef borné qui est là depuis 15 ans et qui en fait qu'à sa tête.
Pourquoi Borgje t'a demandé ça ?
Holm a dû se plaindre. Je lui ai demandé d'être plus impartial dans ses papiers politiques. Ça ne lui a pas plu.
Je connais Lucas Holm.
Ah bon ?
Ouais. J'ai fait un remplacement de 3 mois sous sa direction dans les années 80. C'est un sale type. Il dresse les gens les uns contre les autres. Et en plus...
Quoi ?
Je n'aime pas colporter des ragots, mais une fille du journal, une remplaçante, affirmait qu'il l'a harcelé sexuellement.
Je vois.
Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ?
Je ne céderai pas. Et je l'ai dit à Borgje.
Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau ? Nous avions rendez-vous ?
Non, mais votre secrétaire m'a autorisé à entrer pour vous attendre. Je m'appelle Teleborian, et je suis médecin-chef à la clinique psychiatrique de Sankt Stefan, à Uppsala.
Que puis-je pour vous ?
J'aimerais vous parler. Vous avez un peu de temps ?
Je vous en prie, asseyez-vous.
C'est au sujet d'une de vos patientes, Lisbeth Salander. Il faudrait que je la voie.
C'est au procureur que vous devez faire la demande. Lisbeth Salander est sous mandat d'arrêt, avec interdiction de tout contact avec l'extérieur. Et si vous avez l'autorisation de la voir, vous devrez ensuite en référer à son avocate.
Je suis médecin. Vous pourriez me laisser la voir pour des raisons médicales. comme si vous demandiez l'avis d'un confrère.
Un avis sur quoi ?
J'ai été son psychiatre quand elle était internée. Je l'ai suivie jusqu'à sa majorité. Puis le tribunal d'instance a décidé de la laisser sortir sous tutelle. J'y étais opposé. Elle a été laissée sans soins, avec le résultat qu'on connaît. Je me sens toujours responsable d'elle, et je voudrais pouvoir estimer l'aggravation de son état depuis ces 10 dernières années.
Aggravation ?
Oui, je le crois.
Eh bien, de médecin à médecin, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer sur un point que je ne comprends pas tout à fait.
Oui ?
Quand Lisbeth a été admise ici, j'ai demandé à voir l'expertise médico-légale la concernant. Elle est signée d'un certain Jesper Lederman.
C'est exact. J'étais son directeur de thèse.
Cette expertise est on ne peut plus vague. Il n'y a aucun diagnostic.
Il était difficile pour Lederman d'être plus précis. Lisbeth refusait de participer à leurs entretiens.
Mais il a quand même recommandé de l'interner.
Oui, en raison de ses antécédents qui nous donnaient une idée assez précise de sa pathologie.
Justement, j'ai aussi demandé à ce qu'on m'envoie son dossier de Saint-Stéphane. Et je l'attends toujours.
Je suis désolé. Le tribunal d'instance a décidé de le classer secret.
Et comment peut-on la soigner correctement ici, à Sahlgrenska, si nous n'avons pas accès à son dossier ?
Je vais vous le dire, moi, ce qu'il y a dans son dossier. Lisbeth Salander souffre d'un grave déséquilibre psychique. Elle est sujette à des hallucinations et présente des traits schizophrènes paranoïques très nets avec des périodes maniaco-dépressives. Et un manque total d'empathie.
Rien que ça. Vous n'avez jamais envisagé quelque chose de plus simple ?
Comme quoi ?
Un syndrome d'Asperger, par exemple.
Ouh.
Cette forme d'autisme pourrait expliquer les symptômes que vous décrivez, en plus de son incapacité à se conformer aux conventions sociales.
Les patients souffrant d'Asperger ne tentent pas de brûler vifs leurs parents. Lisbeth Salander est un cas exemplaire de sociopathe paranoïaque.
Elle est repliée sur elle-même, mais pas sociopathe.
Elle est extrêmement manipulatrice. Elle se comporte avec vous comme elle pense que vous voulez la voir se comporter. Croyez-moi, j'ai assisté à ces crises qui étaient d'une violence inouïe.
Malheureusement, je ne peux rien pour vous. Elle est sous mandat d'arrêt. Si vous voulez entreprendre un traitement psychiatrique, vous devez vous adresser au procureur. Et cela doit se faire en accord avec l'avocate de Lisbeth, Annika Giannini. S'il s'agit d'une expertise de psychiatrie légale, c'est le tribunal d'instance qui doit vous mandater.
Alors permettez-moi de vous préciser que le procureur Ekström a demandé à ce que je sois mandaté pour faire une expertise de psychiatrie légale pour le procès.
Très bien. Revenez me voir quand vous aurez cette autorisation. Maintenant, si vous voulez bien me laisser, j'ai beaucoup de patients qui ont besoin de moi dans le service.
Nous nous reverrons très vite, docteur Jonasson.
Ça me fait plaisir de te voir, Michael. Ça doit bien faire 3 ans. Comment ça va ?
Pas trop mal.
Toi, tu as quelque chose à me demander ?
Oui. J'ai besoin que tu me rendes un service dont tu ne devras jamais parler à personne.
Tu me connais ?
Idriss Guidi, ça te dit quelque chose ? Mm-hmm. Arrivé en Suède en 1989, son père opposant kurde avait été exécuté par Saddam Hussein.
Je le connais très bien. C'est mon oncle Mahmoud Baksi qui a réussi à lui obtenir un permis de séjour.
Eh bien, en ce moment, il travaille à Göteborg. J'ai besoin de son aide pour une mission très particulière, mais pas illégale. Je le paierai, bien sûr. Tu peux me recommander à Idriss pour qu'il accepte d'écouter ce que j'ai à lui dire.
Tu peux compter sur moi.
Ferme la porte, Lucas.
Pardon ?
Il t'a fallu 22 minutes après mon coup de fil pour te lever, faire les 15 mètres qui te séparent du bureau de Johannes Frisk, lui dire de te suivre et arriver.
Tu ne m'as pas dit que c'était urgent.
Je ne t'ai pas dit que c'était urgent, je t'ai juste dit immédiatement. Bon, asseyez-vous. Lucas, la première chose que j'ai annoncée en prenant ce poste concernait l'affaire Salander. Je t'ai expliqué que j'y attachais beaucoup d'importance, que je voulais être informé de tous les articles en préparation et valider tout ce qui partait à l'impression.
Bah, c'est ce que j'ai fait.
Faux. Quand j'ai reçu le journal dans ma boîte aux lettres ce matin, j'ai découvert un article de 3 colonnes sur Salander que je n'ai absolument pas vu passer.
C'est un papier de Margareta Öhring. Je ne l'ai eu qu'à 19h hier soir.
J'ai parlé avec Margareta. Elle t'a proposé son article pour 11h, tu lui as dit ok pour 11h30, et tu n'en as pas parlé en conférence de rédaction à 14h.
Ça figure dans l'ordre du jour.
Dans l'ordre du jour, tu mentionnes une interview de la procureure sur une saisie de stéroïdes anabolisants pour laquelle un membre du motoclub de Zwavelje a été arrêté, alors que l'entretien porte sur l'enquête Salander.
Elle a dû changer d'angle en cours de route.
Mais tu te fous de moi ? Margaretha t'avait clairement expliqué ce qu'elle allait faire. Autre mensonge. Tu as eu son texte à 15h20, pas à 19h.
Oh.
Je continue. Aujourd'hui, je découvre aussi un papier de Johannes Frisk sur Salander. Je n'ai pas souvenir qu'on en ait parlé en conférence de rédaction.
Je n'ai pas le temps de m'occuper de tous les papiers qui paraissent. L'autonomie et l'indépendance de nos journalistes font la valeur du Svenska Morgon Posten au cas où tu l'ignorerais.
J'ai exigé d'être informé spécifiquement de tout ce qu'on publierait sur Salander. Est-ce que c'est compris ? Encore un coup comme ça et je te débarque des actus. Ouais, tu pourras choisir entre la page famille et la page détente. C'est clair maintenant ? Est-ce que c'est clair, Lucas ?
Le conseil d'administration...
Le conseil d'administration fera ce que je dirai. Je suis ici pour renouveler le journal. J'ai toute liberté pour entreprendre les changements qui me sembleront justifiés. Et je vais te dire une chose. Tu commences à me paraître de moins en moins indispensable.
Ah.
Réfléchis à ce que je viens de te dire et choisis ton camp. Rapidement. C'est tout pour aujourd'hui, tu peux disposer. Non, Johannes, toi tu restes. Tu fais un remplacement, si j'ai bien compris ?
Oui, depuis 5 mois. C'est ma dernière semaine.
Désolée de t'avoir impliqué dans cette histoire avec Holm, mais je n'avais pas le choix. Parle-moi de ton article.
La police travaille sur une piste. Lisbeth Salander aurait été mêlée à un trafic de stéroïdes anabolisants. Ça viendrait du milieu de la boxe, qu'elle fréquente.
Johannes, j'ai lu ton article. Il est bien écrit. Le problème, c'est que je ne crois pas un mot de ce qu'il dit.
Mais j'ai un informateur à la crime.
Comment s'appelle-t-il ?
Hans Fast.
C'est lui qui a pris contact ou c'est toi ?
Il m'a appelé et il m'a invité à boire un café pour discuter.
Pourquoi, à ton avis ?
Il me connaît. Et je l'ai interviewé plusieurs fois.
Et il sait que tu as 27 ans, que tu es de passage au journal et qu'il peut se servir de toi pour diffuser des informations. D'après toi, pourquoi est-ce que Fast veut que cette piste de trafic d'anabolisants soit divulguée ? Fais marcher ta tête. Je vais te raconter quelque chose. À Millennium, j'ai eu accès à bon nombre d'informations sur Salander. Ce que Fast t'a dit est totalement bidon. C'est de l'intox pour descendre Salander avant son procès.
Ça paraît difficile de la discréditer plus, vu tout ce qu'on a déjà dit sur elle.
C'est le même Fast qui a dit aux médias que Lisbeth Salander était une lesbienne sataniste. Je ne veux pas que le journal que je dirige participe à une nouvelle campagne mensongère. Je ne publierai pas ton article. En échange, je t'en propose un autre. Relis tout ce qui est sorti sur l'affaire. Réfléchis en journaliste d'investigation. Renseigne-toi sur qui répand les infos, pourquoi et qui peut en tirer profit. Je te donne 2 pages. Je veux que ça sorte juste avant le procès.
Je serai plus là, je finis cette semaine.
J'ai fait prolonger ton contrat de 3 mois. Tu continues ici. Alors à lundi.
À lundi.
Bonjour, monsieur Guidi. Je viens de la part de Curdo.
Entrez, je vous attendais. Asseyez-vous. Pardon pour le désordre, mais je manque de place.
Pas de souci. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Est-ce que Curdo vous a dit pourquoi je voulais vous rencontrer ?
Il a dit que vous vouliez m'engager pour un travail. Je vous préviens, je ne ferai rien d'illégal.
Vous inquiétez pas, le travail que je vous confie est clean. Ça ne vous prendra que quelques minutes par jour pendant plusieurs semaines. Je suis prêt à payer 1000 couronnes par semaine.
Ça consiste en quoi ?
Vous travaillez comme agent d'entretien à l'hôpital Salvanska ?
Oui.
L'une de vos tâches, si j'ai bien compris, est de faire le ménage dans le service 11C des soins intensifs.
Vous êtes bien renseigné.
Alors je vais vous donner un téléphone portable avec 2 batteries. Un petit appareil très sophistiqué, vous verrez. Vous allez le poser dans le conduit d'aération qui va à la chambre de Lisbeth Salander. Je vais vous dire laquelle c'est. Ensuite, chaque jour, vous le reprendrez. Vous changerez la batterie, vous le remettrez à sa place et vous rechargerez la batterie vite chez vous. C'est tout.
D'accord. C'est pour donner un accès à Internet, c'est ça ?
C'est ça.
Monsieur le procureur Ekström, comprenez bien que je n'essaie pas d'influencer votre manière d'agir. Mais ce que j'ai à vous dire doit absolument rester confidentiel.
Vous pouvez compter sur moi, Nyström. Ce n'est pas la première fois que je travaille sur des données confidentielles.
À la CEPO, tout ce qui touche à Salatchenko est classé top secret. Cet homme est un ancien espion soviétique. C'était l'un des personnages clés de l'offensive soviétique contre l'Europe de l'Ouest dans les années 70, avant de retourner sa veste.
Oui, je sais. C'est en tout cas ce que prétend le journaliste Michael Benfist.
Il a entièrement raison. Mais il n'a pas pris la mesure des enjeux de ce dossier. Si la vérité sur Salatchenko apparaissait au grand jour, les Russes pourraient identifier nos informateurs chez eux, ce qui signerait leur arrêt de mort. Des hommes et des femmes qui ont risqué leur vie pour la démocratie. Monsieur le procureur, vous menez cette instruction avec brio. Et vous bénéficiez d'une excellente réputation au sein de la police et dans les plus hautes instances gouvernementales.
Merci.
Mais avec cette enquête, vous entrez en terrain miné. Et je suis là pour vous aider. Pour vous prouver notre confiance, je vais vous livrer une première information. Le rapport de police de 1991 que vous avez sur Lisbeth Salander n'est pas le bon. Il a été trafiqué. Voici le véritable rapport, ainsi que les originaux de la correspondance entre Björk et Teleborian. Vous verrez que Gunnar Björk n'a jamais proposé de déclarer Lisbeth Salander psychotique afin de la réduire au silence. Cela aurait été contraire à la loi. La lettre laisse entendre que Björk a demandé à Teleborian de falsifier les conclusions de son expertise est un faux, elle aussi. En revanche, vous trouverez dans ce dossier la véritable expertise médico-légale de Teleborian sur l'état psychique de Salander.
Mais qui aurait eu intérêt à manipuler ce dossier ?
Nous ne savons pas encore. Notre groupe d'analyse y travaille. Ce qui est certain, c'est que celui qui a fabriqué les faux a eu accès à la même machine à écrire que Björk.
Björk serait un traître ?
La seule certitude, c'est que l'évaluation médico-légale de Salander faite par Teleborian est correcte. Salander est folle alliée. Je vous laisse. Vous pouvez me rendre le dossier. Je dois malheureusement le récupérer.
Est-ce que je peux savoir qui sont vos supérieurs ?
Mes instructions proviennent de certaines instances, les plus hautes qui soient. J'espère que vous me comprenez.
C'était Millennium 3. La reine dans le palais des courants d'air, de Stieg Larsson. Traduction, Lena Grumbach et Marc de Gouvenin. Adaptation, Sophie Bocquillon. Quatrième épisode, avec Christophe Raymond, Anne Kodja, Marie Payen, Nicolas Gonzalez, Johanna Nizar, Éric Herson-Macarel, Christophe Allwright, Philippe Bautier, Alain Fromager, Pauline Moulaine, Geoffroy Guerrier, Sylvain Clément, Philippe Lodenbach, Charlie Nelson, Antoine Berry-Roger, Jean Ocotrel, Guillaume Costanza, Damien Pézan, Hossein Rouy. Bruitage, Céline Bernard. Musique originale de Krishna Lévy, interprété par l'Orchestre National de France, dirigé par Didier Benetti. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminque et Pierre Henry. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Millennium est publié aux éditions Actes Sud dans la collection Actes Noirs. La musique de Krishna Lévy aux éditions Amélie.